In un castro dell'Università Occitana d'Estio de Nimes de 2016, la Marpoc convidait Gérard Zucchet et Philippe Martel per une conférence titulada L'histoire des mythifiés. A quelle conférence managiada per Marie-Jeanne Verny tenguet lloc le 20 de juillet de 2016 al Centre Agora de Nimes. Avez aquí la seconde dernière partie de quelle conférence.
Cochon, il collabore peut-être avec les Anglais, mais les Anglais sont ceux qui viennent justement d'inventer un système qui est déjà proto-constitutionnel, qu'un certain nombre de conseillers du bon roi Charles V avaient essayé d'implanter en France. Et Cochon, il est complètement dans cette lignée. C'est-à-dire, en gros, Chêne d'Arc, elle représente l'archaïsme féodal et l'alliance étroite avec la Sainte Église catholique, ce qui ne lui empêchera pas d'avoir quelques problèmes avec elle. Alors que les Marmousets de Charles V, ils étaient au contraire dans l'idée d'une monarchie contractuelle qui permette d'accepter un certain nombre de contre-pouvoirs. Je veux dire, la vision du système français de Jeanne d'Arc à côté de celle de Cochon, moi je vote Cochon sans aucun problème. Alors je dis ça ici aujourd'hui parce qu'il n'y a pas de représentant de la Sainte Église catholique, apostolique et romaine et qu'il n'y a pas non plus de représentant de la dynastie Capet, mais je veux dire, on peut jouer, je plaisante à moitié, hein, mais encore que. On peut parfaitement tenir ce genre de discours. Alors, c'est clair qu'à ce moment-là, il y a un certain nombre de gens qui vont faire la tronche. Mais, il n'y a pas de raison que nous, on se permette de discuter nos propres mythes et puis qu'on n'ait pas le droit de discuter ceux d'en face. Merde.
Abus. Question ou remarque ?
Puis là, une petite remarque. Quand les counariers sont inscrits dans les livres d'école et qui sont insignés, ils pichent, à quoi vient comme une vérité nationale. Et crèze que Marie Lafont, qui a déjà de faire la mostre, que quand il y avait que quatre barcasses sur la Seine, il y avait déjà dit le port de Marseille, per a déjà de pas faire un mode que l'histoire des France, c'est un devait nous aimer l'histoire de l'histoire de France. Parce qu'il y a eu une histoire inconnue, mais il a voulu être que dit le Nord. Et à quoi c'est pas reconnu par l'enseignement à la début. Faut être un peu moins jeune et per destria tout à quoi.
Et oui, donc quatre huttes boueuses au bord de la Seine à Lutèce, etc., au moment où c'est ce qu'ils disent. Alors, la différence, est-ce que Déguin allait du Marie Lafont, ça vous passe au cas aigu comme tirade, mais Déguin allait du Père Decker, est un personnage tout à la même, percevé comme. Est un type qui montava des tarigarones, qui arrivava à Paris, ça met une valise en carton. Déguin le prenait trop au sérieux. Ça, quand on veille la critique sur Marie Lafont à Paris, bon. Et donc, non pas que le libre d'école, qui avait toutes les aigus de notre génération, s'est souvenu un quart. Pavlov a encore frappé, hein. S'est souvenu un quart de les illustrations. Effectivement, aimer l'os galais et la porte de l'orute, l'os gallo-romance devant la maison carrée de Nîmes, Clovis sur son pavois, ou alors avec le vase de Soissons, Charlemagne aimer l'os bons escoulants d'une Custa, l'os maris de l'autre, avait un cas, l'os dieu, vest belé ou pas, mais en tout cas, d'une autre génération à nous autres, à quoi l'avait. Et donc, ce qu'il disait tout à l'heure, il disait qu'il y a un formatas, avait des réflexions. Et à partir du moment qu'on nous a tout juste raconté cette histoire, ben veillez pas parce que la créerien pas, et donc la créerien.
Oui, Rai Felipe, mais c'est boss. Et l'impression que l'occitanisme est le tabé format l'occitaniste. Et il y a un mégoum flottant. Perdé que mes sentis pas responsables de la libre histoire et le petit Lavis, parce qu'elle n'est pas fatch, et que heureusement à mes loutins et après des critiques à quoi, et maïs et yuay à mes cochons, mais une peau. Bon, il n'y a qu'une cop, parce que vous ne saviez pas que Cochon, quand vous votez père Cochon et pas père Jeanne, parce que bon. Mais bon.
À la première
aux élections. Oui, Rai. Bon, vous voulez dire, ah ben après, vous comprenez que l'histoire officielle que nous enseignons est au passe-temps historique au caco, sur un autre plan, la place qui fait la commune d'une histoire de France, c'est une parole légère par rapport à ce qu'est la commune. Donc, il y a d'autres éléments d'histoire qui sont à un niveau politique et pas à un niveau. Ethnique, c'est pas qu'aussi d'appeler, culturel, qui nous a amaga, ok. Mais il y a eu comme occitaniste, sous force maïdes ringades, quand est l'occitanisme, qui fabrique des mythes à la con, sans avoir une seconde de réflexion dessus. Tout en comprenant que ce sont des mythes, mais imagine que le monde prenne son mythe et perd l'histoire. c'est ridicule. Et bon, ce qui m'a intéressé, ce qui m'a dit Philippe, et tout ce qu'on croit qu'elle entend, il y a précisément, l'oudigatabé à côté qui il y a une messe, dans le journal. Montrer quand même un aspect positif de la fabrication des mythes. Comme nos mythes sont quand même en maille fréquentables que d'autres mythes, sans permettre une histoire de cette année un peu meilleure que d'autres, tant mieux. Un peu parce que il y a un désringo quand on ne sait pas qu'un mythe est un mythe et qu'on mesque mythe et histoire. Et c'est toujours un peu gênant pour laquelle, par exemple, l'idée que la fin à l'état médiane, la fin non. Noble Bolibien, car qui disent ce que nous, nous, mais la fin du village, je ne pense pas que ce soit respecté au mai et nous citons qu'il n'y a pas de mai. Nous, c'est d'accord que me désringo, c'est bon, qu'on fasse prendre des cunarios mythiques, bon, pour l'histoire réelle, parce qu'à qui me pense qu'il y avait une responsabilité. Et me gêne comme prof, parce que veiller arriver des étudiants qui ne font pas la différence entre mythe et histoire est problématique.
À qui avait agut d'emper la salle une intervention de Gilles Dazas qui disait que les mythes, les légendes en font partie de la construction de l'occitanisme et que art, encore, l'occitanisme se bâtit en partie sur des mythes, des légendes, comme se bâtit un mythe félibréen ou limousin. En réponse à quelle intervention, Philippe Martel répondait.
Oui, bon, veille, ce que vous dire, mais donc, c'est la grosse question, alors qu'est-ce complètement d'actualité, mais d'accord. Le desfasage entre l'idée d'une grande Occitanie canarienne, donc de l'Atlantique à la plaine du Pô et de Guéret-Montluçon à la Val d'Aran, et la réalité visqueuse à Perpromonde, qui est une réalité locale. Et se verra qu'à Forti, que l'espace linguistique occitan est un espace d'histoire, c'est qu'est-ce, ce que disent d'un pile au siècle des Zénos, est d'une certaine biais, un affortiment qui est pour, perfectement, serait recevu comme un mythique. Alors, à Kodich, dès qu'est-ce l'alternative? L'alternative est la négation de la circulation entre les régions. C'est-à-dire qu'effectivement, les troubadours pourront être limousines à la partie, c'est donc pour un cas, nous n'avons pas un patcha de circuler sur un espace, et ce qui est d'ailleurs, c'est un espace européen que Mike est cocitan. Et le fait que chacun aille son appartenance régionale ne passe pas. Que tout au fil de l'histoire de notre région, il y a eu des scambis. Et il me semble que s'il y a encore une intercomprenaison entre les diverses variétés de l'Occitan, c'est précisément parce qu'il y a eu un contact, une circulation pendant des siècles entre la montagne et la plaine, entre l'Est et l'Ouest, parce que la nécessité de se comprendre aille limiter la variabilité linguistique. C'est comparé à quoi, mais par exemple, la plaine du Pô. Costa italien, veillez subit la différence. Qui est-ce, ou même tout simplement, mais la slingas d'oil entre le Vallon et le Peitavin, m'excuse, où il n'y a pas de rapport particulier, c'est nous un rapport génétique qui remonte aux siècles 5. Donc, il me semble que toute notre difficulté à nous autres, aussi, c'est-à-dire, c'est de mettre déjà la dialectique entre les deux dimensions. C'est-à-dire, le respiech. De la spécificité des chasques partent de l'espace occitan. Ce qui fait qu'un cuit vous parle dans une variété d'occitan qui n'est pas la vôtre et qui n'est pas gênante parce que même si la pouvait trouver bizarre, et je sais titre, à des moments qu'il y a, il n'y a pas qu'est-ce d'occitan. Et donc, il y a la nécessité de respect de la particularité des chasques zones à condition que si estrechament lié à l'affortiment du fait qu'un délai de la particularité avait un point de cause en commun et qui ne sont pas sous la même langue, parce que affourti l'existence d'un espace occitan, c'est que ce n'est pas sous la main une partie presse mythique ou une mythe nationaliste, qui est aussi l'expression d'un dépassement du provincialisme. Parce que ce qui nous menace, est justement, parce que c'est comme ça que c'est un vice de l'un des forts, et Zako qui tente aussi un certain nombre d'acteurs du movimento cultural en conostre, es l'embarrament d'un accord mai particulier, mai spécifique possible. Ce qui fait qu'on considère que le provençal n'est pas de langue d'Occident, que c'est une autre langue, que le nissart n'est pas de provençal, que le mentunasque n'est pas de nissart, un peu comme on dit comme accord, le castillonais n'est pas de mentunasque. Bon, à un moment ou l'autre, tu as de passer à quoi pour essayer d'établir cette circulation entre les deux niveaux. Il y a Occitania. Alors, dit tout une troupe d'une la polémique. Mais digain Occitania met un grand O. Es belle au cocaran des mythiques, mais un mythe qui justement est à cette fonction positive, qui est de nous permettre de dépasser l'embarrament d'une le local ou le mail localiste. Es sans accord, si on, effectivement, risquant d'être embarras d'une le terroir. Le terroir et les racines, et c'est exactement à cause de ce que les autres d'en face, ils voient que l'idée mourait. Donc, c'est pas perdu qu'ils voient que l'idée mourait, que si on oublie déjà, c'est leur obéit.
Il y a beaucoup de gens qui connaissent pour les troubadours, pour les canzons, pour les cantaux ici par là, malgré la force, me rappelle une cantaire qui avait été enregistrée dans la troupe de les troubadours. Et avait ensagé de faire cantar les cançons des trovadors de Provence avec l'accent de la Provence, t'avais en Limousin, en Périgord, en Aquitaine, tout à coup, et fonctionnait pas tant bien qu'à coup, parce que c'était un peu artificiel, c'est beau. Et ce qui fonctionnait mal bien, c'est débailler la canzou à une cantaire qui s'y a des limousines ou autre, et trapabo el meteis son biais de fa. Et d'aïsat las causos a natal. Donc, il y a la meiao qui canto limousi, donc, il y a d'autres qui canto limousi. Et il y a aussi l'engadoussia, donc, canti en l'engadoussia. Pensi que a côté de une cause et sans calme suffisant, a bien une tendance à dire que tous les troubadours sont pariés, en écrit pariés, à quoi nous savons qu'il y a des dialectes. Quand a bien des troubadours, c'est fort intéressant parce que pour les troubadours catalans de Catalogne ou italiens d'Italie ou del Nord, comme Bonifacio Calvo et tutti quanti là, Bertolo Mezzorti, a bien pas cap une mélodie pour les troubadours. A bien des mélodies pour les troubadours qui sont en Limousin, qui sont en Provence, qui sont en Languedoc, pas des mélodies pour la Gascogne. Et per Marc Abru, Navendus. Donc, c'est fort intéressant parce que, à un moment, il y a des troubadours qui ont des mélodies musicales ou dans une langue ou dans une situation géographique d'une part d'Occitanie et d'autres, non. Ça ne passe. Nous ne pouvons pas dire à qui la musicologie peut paraître. Nous ne pouvons que faire la constatation que quand veille la Lausette, il y a mai de mintenat de copios dans les manuscrits d'aquelles cançons. Mais pour une autre, il n'y a qu'une opéra Guiraurique de Narbonne, par exemple, qui est la retranscription musicale la mai faisable. Aben 48 cançons qui sont ordonnées comme le Guiraurique a décidé, la bio décidé de l'ordonner. C'est un classement de la cançon per an, et c'est le manuscrit, c'est atal. Donc, à qui l'écriture est force élaborée, dirais, et la graphie en saut des guerres auriquées, t'as bien.
Bon, je voulais tourner sur la question de la relation entre mythe et historio, sur la question de l'action d'un mythe digne d'historio. C'est-à-dire que dans une ville comme Béziers, en 66, quand passaient les Qatars à la télévision, il y avait une réseau qui est refondée sur une brase qui demeurait dans l'arrière-fond de la pensée collective, qui est marquées par des faits réels, avec les attestations des légales del pape qui rendent compte del chapel. Et si la réaction s'est faite en 66 sous laquelle la fin, c'est qu'il y a bio une continuité de transmission, une lumière souterraine, mais pas tant à caco. Parce que quand on a des mondes de Béziers, comme Riquette, que c'est par là une pause à Castemati, puis à Permesclin, ou Mouly, que son père est Kéro en relation avec Frédéric Mistral, qui lui fait une poème à Nocita, qui a bio 4 mètres, le Jean Mouly, il y a des transmissions qui ne sont pas sonquées de la mythologie, mais derrière la mythologie, une même patrimoine collectif de pensade, espace plus le mythe de la paritat, etc. Mais il y a une notion de valou qui s'attrape, qui t'amène dans la réaction populaire en 51 face à Napoléon XIII, et qu'il y a un travail qui demeure de fin, d'historien, sur l'articulation entre ce qu'est la réalité historique, par des quais, de l'histoire del chapel de 1209, il y a tabé l'assassinat del vicomte Trencavel en 69, pour dire que le bourgeois de Béziers, qui sont magnifiques et de générosité dans leur tolérance en 1209, a bio massacrat le vicomte de Béziers. Et à quoi fait part de l'histoire et qu'elle parle à la maga. Donc il y a un travail, mais c'est un travail qui est général. Il y a aussi un pétard qui Béziers la cérémonie qui se fait en Invalides, et quand se sait que le symbole principal des Invalides, c'est le tombeau de Napoléon III, de Napoléon Ier, que le tombeau de Napoléon Ier, il faut savoir que c'est Hitler lui-même qui a fait rapatrier la dépouille de l'Aiglon qui était à Vienne en décembre 1940 à Paris. Donc il faut démystifier et démonter des histoires qui sont aveugles, parce qu'on a complètement à travers l'histoire qu'on nous a contée, et c'est très fort dans une de mes passions actuelles, c'est de démonter l'affaire des départements. On continue à raisonner comme si l'histoire et la géographie se jouaient sur les départements, qui sont une création de la technobureaucratie royale de la deuxième moitié du XVIIIe siècle, et pas du tout une création républicaine. Et après, qui ont été consolidés, verrouillés par le césaro-bonapartisme avec les préfets. Donc il y a des mécaniques comme ça qui nécessitent des luttes idéologiques pour démonter les mythes nocifs et au contraire trouver les mythes positifs qui font que dans le mouvement ouvrier, quand on parle d'émancipation et de solidarité, on a tous des références qui sont évidemment mythologisées, des massacres de fourmis et ou de Chicago. On a tout ça dans notre passé, mais c'est devenu autre chose. C'est devenu autre chose de moteur et de positif. Et c'est en attaquant les mythes, il faut trouver la part quand même et étudier exactement comment s'est fait l'intégration du mythe comme un moteur positif de l'histoire.
Les conférences de Radio Languedoc.
Oui, tout à fait d'accord. Alors, sur l'affaire des cathares de Stello Lorenzi en 1966, ça se passe à Béziers, ça se passe aussi à Carcassonne, là où les jeunes donc voient l'émission sur un écran mis en place par la mairie, et ensuite les jeunes de Carcassonne montent à la cité pour aller casser à coups de marteau la plaque à l'honneur de Saint-Louis. Alors, qu'est-ce qu'il y a derrière ça? On est en 66, on est au moment justement où commence à se manifester un mouvement viticole revendicatif particulièrement vigoureux dans le sud qui va durer jusqu'en 76, Montredon. Et dans ce cas-là, on remonte à 1907 et on s'aperçoit que Marcelin Albert et Féroul font mention de la croisade des Albigeois comme finalement la préfiguration de ce qui est en train de leur arriver actuellement. On s'est fait casser la gueule en 1209 et maintenant Clémenceau est en train de nous essayer de refaire le même film. Et donc, là, si tu parles de transmission, là oui, il y a transmission à mon avis entre les deux périodes, tout simplement parce qu'en 66, j'en ai encore connu, hein, il y avait des gens qui avaient participé aux manifestations de 1906. Et donc, ça signifie que, à ce moment-là, il y a la conjonction entre une demande totalement contemporaine d'éléments justifiant, d'historique justifiant les revendications des viticulteurs sans se cantonner à la dimension proprement professionnelle, en essayant de dépasser cette dimension et donc en la nourrissant d'arguments historiques, etc. Et à ce moment-là, finalement, le film de Stellu Lorenzi, qui n'a absolument pas certainement été fait pour ça, c'était pas leur problème, va être repris et utilisé par le mouvement revendicatif languedocien au service donc de la défense des intérêts régionaux. Et du coup, c'est clair que la prise de conscience occitaniste qui commence à se manifester dans ces années-là, elle est directement liée à ça. Et c'est à ce moment-là qu'un truc qui était au départ une affaire de viticulteurs peut devenir quelque chose qui englobe l'ensemble des forces vives d'une région qui se sent menacée dans son devenir économique et également culturel. Et donc là, oui, alors ce mythe, c'est bon. Là, le mythe a effectivement une valeur positive. Ce qui ne nous empêche pas ensuite de le savoir et de le dire. C'est-à-dire que ça, à un certain moment, ça a eu un effet de... j'allais dire de déclencheur de conscience. Quand on le voit, on s'aperçoit que c'est basé sur le bouquin de Zoé Eldenburg, sur le bûcher de Montségur 1959, et que c'est une façon extrêmement traditionnelle de raconter la croisade albigeoise. Il y a comme ça un certain nombre de... J'en avais un autre qui me traversait la tête à un moment. Oui, le mythe, oui, la révolte. Il y a un film absolument magnifique. Il y a deux films magnifiques qui ont été faits sur une révolte paysanne pyrénéenne de Les Demoiselles. Il y a le film de Jacques Nichet, qui est le meilleur film occitan qui a été fait, qui n'a pas du tout été fait par un occitaniste. Hein. Il est parlé en occitan, peu importe. Et il y a eu un documentaire encore plus intéressant fait par Labrune et je ne sais plus qui, Jeanne Labrune et je ne sais plus qui d'autre, où il débarque en Ariège, pour justement essayer de voir ce qui reste de la mémoire de la guerre des demoiselles. Et ils s'aperçoivent qu'il ne reste rien jusqu'au moment où commence à circuler l'idée qu'il va y avoir un parc naturel dans la région qui va nécessiter finalement la fin d'un certain nombre d'usages traditionnels des populations locales par rapport à la forêt, à la nature, etc. qui va donc menace d'une certaine manière une certaine façon de vivre locale installée depuis des générations au profit de quelque chose dont, qui est parachuté depuis Paris avec certainement les meilleures intentions du monde mais sans réelle consultation avec la population. Et tout ce que l'on voit dans le documentaire, qui a d'ailleurs été passé dans une université occitane d'été, je crois que c'était celle d'Aigleton en 1976, ce que l'on voit, c'est progressivement la population ariégeoise se réapproprier le souvenir de la guerre des demoiselles pour dire, de la même façon que nos ancêtres ont cassé la gueule aux gardes forestiers qui nous empêchaient d'aller récupérer du bois et donc qui nous condamnaient finalement à crever de froid parce qu'on n'avait pas de bois, on pouvait pas acheter de bois pour l'hiver, de la même façon, nous allons lutter contre un parc régional qui risque de nous exclure complètement du paysage auquel nous appartenons depuis des générations. Là, oui, là encore, on voit comment une société, quand elle en a besoin, suscite et fabrique ses propres mythes. Et ça, c'est vachement intéressant. Mais une fois de plus, ça n'empêche pas ensuite, et c'est notre responsabilité à nous, occitanistes, hein, ça ne nous empêche pas ensuite d'avoir un travail de prise de distance par rapport à ces discours, pour montrer en quoi ils sont positifs, mais en même temps en quoi ils risquent de nous entraîner dans des rêves ou dans des reconstitutions hollywoodiennes, alors que c'est beaucoup plus intéressant de voir comment les choses fonctionnent en réalité. La société occitane du XIIe siècle est une société passionnante. Ils passent leur temps à se taper sur la gueule, mais c'est absolument passionnant parce qu'ils se tapent sur la gueule pour d'excellentes raisons. Et, enfin, ils se tapent sur la gueule, ils font semblant, hein, c'est retenez-moi, je fais un malheur, en gros. Hein, mais ça marche comme ça. Et ça, c'est très intéressant. Après, les gentils troubadours et les belles dames, c'est intéressant aussi, à condition de savoir que c'est...
Oui, alors non, je vais... À propos de fabrication de mythes, je parlais de Marc Abru, là, tout à l'heure, dont on ne connaît pas beaucoup de mélodies, hein, un peu plus de j'ai dit deux, mais je me suis trompé. Il a fabriqué un mythe avec la chanson « L'ouverse del Labadour », qui commence par « Xin nomine domini », et... on voit que 100 ans après, Guiraud d'Espagne témoigne dans une chanson en disant « Je ferais mieux de chanter le vers du Lavadour, ça me rapporterait beaucoup plus d'argent que mes propres chansons ». C'est quand même intéressant. Puis les troubadours, je crois, ce sont les premiers fabricants de mythes. Quand on a affaire au Raso et au Vidas, je veux dire, il faut oser l'écrire, quoi. Guillaume de la Tour qui va sortir sa femme du tombeau, qui va l'embrasser, puis va la remettre au tombeau, etc. C'est une Vidas incroyable, quoi. Et je pense que le mythe, dans ce cas-là, chez les troubadours, participe vraiment à l'écriture poétique. On sait par exemple, toujours pareil, hein, si on décrit le personnage de Peyre Vidal, qui chantait là, pour les compagnons de la Belle à Foulour, le plus fou de tous, c'est lui, c'est bien écrit dans ses Vidas, et on sait que quand le comte de Toulouse est mort, il ne s'est plus coupé les cheveux, les ongles, la barbe, etc. Il a fait couper le bout des oreilles à ses chevaux, etc. Donc voilà un mythe qui entoure ce personnage de Peyre Vidal, un des plus grands troubadours. Donc les premiers, hein, ils sont là.
Vous avez, Gérard Duquette, tout à l'heure parlé des mélodies des troubadours, donc vous avez fait des variations mélodiques sur une chanson dont on a à peu près l'écriture, mais justement il n'y avait que 4 lignes, je crois, donc c'était déjà un problème, et il y en a très peu d'écriture en chanson musicale. Donc comment faites-vous pour savoir quelle mélopée il faut mettre, quelle variation il faut mettre sur... voilà, c'est peut-être très technique, je ne sais pas, mais non, justement, ça, je me pose la question.
Je ne vais pas vous faire une réponse technique. Si vous voulez, dans les chansonniers des troubadours, on a, parce qu'il fallait économiser quand même, bien sûr, la peau de porte-année, c'est sur 4 lignes. En Espagne, à la même époque, on écrit sur 5 lignes. Donc sur ces 4 lignes, c'est écrit en notation carrée grégorienne, mais ça a été écrit de façon postérieure au premier troubadour. On sait très bien la précision pour Guillaume Riquier, mais on ne sait pas pour les autres. Toujours est-il que on a 248 chansons qui sont attribuées à des troubadours, dont on connaît le nom. Et puis, il y a une douzaine qui sont anonymes. Donc, il y a 260 mélodies. Ça, c'est le corpus entier des troubadours. Si on regarde bien, ça vaut quand même le corpus de Jean-Sébastien Bach. Avec la seule différence, c'est que les troubadours sont beaucoup moins joués. Donc, concernant la donnée, je dirais, musicologique, on a une parfaite mélodie sur le système grégorien, précise, etc. Elle n'est pas rythmée, elle ne contient pas de rythme, elle contient simplement des barres de séparation de fin de vers, et c'est tout. Mais c'est clair. Alors après, tout le reste sur l'interprétation, je vais faire très court. Je dirais que, tu l'as dit Philippe, c'est très important, effectivement, quand on connaît la langue occitane, c'est plus facile de chanter les troubadours. Quand on entend chanter les troubadours, comme à l'époque avec Andrea von Ramm, et le studio d'Airfro Musique, qui faisait un travail très bien, tout à coup on entend Marty dedans. Marty, il chante pas, il dit quelque chose, et c'est lumineux. Et quand on entend les chanteurs de cette époque-là du studio d'Airfro Musique, qui ne connaissent pas la langue et qui chantent les mots, ça ne sonne pas. Ça reste extrêmement plat. Alors que celui qui va, bon, prenons Meillot, puisqu'on en parlait tout à l'heure, prenons Meillot qui va chanter Chazutz, par exemple, de Faidit, il fait sonner la langue. Tout simplement parce que je pense qu'il a la langue occitane, il la porte bien. Quand on écoute Carlotti avec Mar, je dirais, malgré la trompette de Mar, eh bien, non, je dis malgré, parce que au rapport sonore, eh bien, on entend très bien sonner les mélismes de Carlotti. Et ça, les chansons qui sont très mélismées, comme Guiro Riquet, ça ne trompe pas. Si vous ne connaissez pas la langue, je pense que ça ne peut pas marcher. Il y a une chanson de Guiro Riquet qui commence comme ça. Jésus-Christ. Vous voyez, c'est un i, c'est un simple i. Ah, mais c'est noté. C'est ce que je dis sur les manuscrits, c'est très précis. C'est extrêmement précis. On a un patrimoine là écrit de la musique, de la musique qui est extrêmement précis. C'est juste une question de traduction, je dirais, de l'écriture carrée à l'écriture. Il y a un très bon livre qui a été fait par Ismaël de la Cuesta et Robert Laffont là-dessus, sur le sujet. Et puis il y en a un autre qui a été fait par Van der Werf, qui lui aussi a travaillé sur les trouvères. Donc mais ça, depuis le temps, on a appris à connaître. Bon, bien sûr, on vérifie sur le manuscrit, c'est quand même mieux, parce que c'est agréable à regarder, mais en plus, vérifier, ça permet de pointer quelquefois le type d'ornementation. Il faut savoir qu'à l'époque des troubadours, on écrivait la graphie Saint-Martial de Limoges, donc la graphie martialienne, plus la diastématie, ce qui veut dire qu'on avait quand même des écritures qui étaient imprécises, volontairement. Donc on se promenait avec l'antiphonaire sous le bras, on avait une petite ligne, avec les neumes dessus, on chantait en haut ou en bas, on avait des neumes, et ça s'est précisé après. Mais à l'époque des troubadours, on connaît ces neumes déjà, et ces intervalles. Par exemple, il y a une chanson de Raymond de Miraval qui commence comme ça. Elle fait « Arab la forza del freis ». Voilà. La plupart des gens qui font de la musique médiévale aujourd'hui enlèvent le si bémol. Parce qu'ils font exactement comme le pape Grégoire à l'époque. Le chant des ornementations, ça perturbe l'esprit en prière. Et automatiquement, les chanteurs qui sont de la musique médiévale, c'est-à-dire ceux qui souvent viennent de la musique baroque, enlèvent ce petit si bémol qui fait... C'est quand même intéressant, quoi. C'est-à-dire que cette chanson, par exemple, elle intègre dans sa copie musicale au XIIIe, XIVe siècle, malgré tout, ce petit espace qui normalement est interdit. Donc c'est pour dire à quel point ça peut être précis.
Donc quand on a des groupes actuels qui remettent un peu à l'ordre du jour les chansons de troubadour, mais qu'il n'y a pas tous ces mélismes et tout ça, c'est vraiment très appauvri.
C'est simplifié.
Donc, moi, ma question, ça concernait plutôt l'apparition de mythes contemporains. Je mets un point d'interrogation en contemporain. De plus en plus, j'ai l'impression que les gens de ma génération, je prends un spectre assez large, il y a un mythe, encore point d'interrogation, cette idée d'ouverture sur la Méditerranée, que j'ai pas forcément lu. Enfin, j'ai l'impression que c'est assez récent, mais j'en suis pas sûr. Et je veux savoir, est-ce que c'est un mythe contemporain qu'on est en train de décrire? Et alors, j'ai bien une idée pourquoi on le fait, mais j'aimerais avoir du coup votre avis là-dessus.
Ça y passe à du mythe, mais est-ce vrai que quand tu as la manifestation culturelle à Lourdes, il y a Souben, le festival, un dialogue, mais la sculpture du Maghreb, mais la Catalogne, mais l'Afrique. Il y a des travaux qui s'est fait, mais Chab et la bande des Mahouesques, à l'entour du Sénégal. Est-ce vrai? Alors, est-ce un mythe qui mérite, malgré le Mike et d'autres, j'espère que. Oui, mais vrai. Et ce n'est pas conscient qu'il y a un mythe. Mais la fin, on dit déjà, considérant le Méditerranée comme une porte et pas comme une barande. Donc la fin, on appelle ça, quoi. Mais c'est simple, oui. Est-ce pas tant. Est-ce vrai simple si dans l'utilisation collective, dans le job et dans le festival? Mais la fin, on a bien pensé ça.
Bon, s'il n'y a pas d'autres questions, et pour dire un grand merci, Dia, pour tout ce que c'est dit.
A Coère, la seconde et dernière partie de la conférence L'histoire démythifiée, préparée par Gérard Zuquette et Philippe Martel, avec Marie-Jeanne Verny. Fouguette registrée le 20 juillet de 2016 au Centre Agora de Nîmes.